recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
À Mandalay où la vieille flottille est à l'ancre. N'entendez-vous donc pas ces avirons battant l'eau depuis Rangoon jusqu'à Mandalay, sur la route de Mandalay, où s'ébattent les poissons volants, où l'aurore apparaît avec un bruit de tonnerre venu de Chine à travers la baie.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Rudyard Kipling l'affirmait dès 1899, la Birmanie, je cite, est bien différente de tout pays dont vous pouvez avoir entendu parler. Encore était-ce à ses compatriotes britanniques qu'il s'adressait, dont le pays en question était alors une colonie. Qu'aurait-il dit à des Français, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, qui en furent toujours culturellement et intellectuellement éloignés, davantage encore? Mais voici que le drame des Rohingyas, surgissant au premier plan de l'actualité, nous sort brusquement de la tentation de l'indifférence. Il s'agit de cette minorité musulmane martyrisée par l'armée et en grande partie rejetée au-delà de la frontière dans le Bangladesh voisin. Événement dramatique, d'où naît chez nous un étonnement qui va souvent jusqu'à la stupéfaction. Et quoi? C'est cette religion bouddhiste, dont on nous a dit si souvent qu'elle était foncièrement pacifiste, qui tolérerait, provoquerait peut-être une telle barbarie? Et quoi? La figure totémique d'Aung San Suu Kyi, cette très noble et vaillante combattante de la démocratie, prix Nobel de la paix en 1991, parvenue récemment au pouvoir et paraissant incarner un retour de son pays jusqu'à la liberté et aussi au respect des droits de l'homme, c'est elle qui couvrirait de tels forfaits? L'histoire du long terme, permet-elle de mieux comprendre cela? Voilà ce que je vais demander à mon invité, François Robin, directeur de recherche au CNRS et qui, jusqu'à tout récemment, dirigeait l'IRASEC, l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporain. Et d'abord un reportage de Rémi Fabre sur les Rohingyas, ces musulmans de l'Arakan qui sont si maltraités par le pouvoir central de la Birmanie.
Et ils n'ont pas le droit de se déplacer d'un village à l'autre sans autorisation, des autorisations qu'ils doivent acheter. Alors ce n'est pas bien cher pour une petite destination, par contre ça coûte plusieurs centaines de dollars pour aller à Rangoon, la plus grande ville de Birmanie qui est située à plus de 500 km au sud-est. Au-delà du prix, c'est surtout très ennuyeux de devoir demander ces autorisations et d'attendre qu'elles soient délivrées. Cela entraîne des discriminations économiques, puisque les musulmans ne peuvent pas faire du commerce aussi facilement que les autres. Des discriminations aussi en termes d'éducation, puisque les jeunes des villages de l'Arakan ne peuvent pas aller à Sitwe, la capitale de l'État, pour aller à la fac. Ils doivent suivre des cours par correspondance, alors qu'ils habitent à quelques kilomètres seulement de l'université. Et des discriminations en termes de santé, puisque même très malades, la police de l'immigration ne laisse pas passer ceux qui ont besoin de se faire hospitaliser en urgence à la ville.
Et Rémi, vous avez rencontré Shira, une musulmane Rohingya de la ville de Sitwe. Elle a essayé avec son frère de se rendre à Rangoon l'an dernier. Elle a eu des ennuis, bien qu'elle ait acheté un laissez-passer à 1 400 $ pour ce voyage.
Nous ne sommes pas allés plus loin que le village de Tokabin, dans l'arrondissement de Sitwe. Dans ce village, nous avons attendu et une personne du gouvernement est arrivée. Cette dame nous a demandé où nous allions. Nous avons dit que nous allions à Rangoon. Elle voulait de l'argent. Donnez-moi de l'argent. J'ai été arrêtée et emprisonnée 6 mois. Le juge ne m'a rien demandé. Au tribunal, tout le monde est resté silencieux.
Et Rémi Fabre, dans cet état de l'Arakan où les musulmans sont nombreux, il y a aussi une politique de birmanisation de la part des autorités.
Oui, dernier, les autorités birmanes amènent des Birmans pauvres de la périphérie de Rangoon qu'elles installent sur des terres volées aux Rohingyas musulmans. Elles construisent ce qu'elles appellent pompeusement des villages modèles birmans, qui se transforment assez vite en bordel d'ailleurs, puisque les Birmans pauvres de Rangoon n'ont pas l'habitude de cultiver la terre et que l'agriculture ne leur rapporte pas assez. Ajoutez à cela une politique de la famille discriminatoire. Contrairement aux bouddhistes, les Rohingyas musulmans n'ont pas le droit d'avoir plus de 2 enfants, mais surtout, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants hors mariage, et là, la règle est appliquée. Les contrevenants s'exposent à des peines de prison.
Et la seule solution, ou presque, dans ces conditions, Rémi Fabre, c'est l'exil.
Oui, de plus en plus de musulmans Rohingyas s'embarquent sur des petits bateaux clandestinement en direction d'autres pays musulmans asiatiques. Depuis, les autorités birmanes contrôlent encore plus étroitement leurs côtes pour empêcher les musulmans de fuir et pour faire en sorte que leur sort ne soit pas connu à l'étranger.
François Robin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être devant moi pour aider nos auditeurs à comprendre mieux la complexité de la Birmanie. Je voudrais qu'en commençant, vous nous situiez mieux que peut-être nous ne sommes capables de le faire spontanément, cette question des Rohingyas dans l'ensemble de la problématique birmane, je veux dire démographique, économique et géographique.
Voilà, donc la Birmanie est un pays d'Asie du Sud-Est avec 5 frontières, le Bangladesh, la Chine, le Laos, la Thaïlande, pour une population totale d'à peu près 55 millions d'habitants, dont une majorité même de minorités ethniques.
Presque autant que la France, démographiquement.
Démographiquement, presque autant que la France, mais avec une complexité linguistique et culturelle très très forte. Cette grande diversité, il faut, et c'est l'objet même de cette émission, cette diversité remonte aux origines même et concomitante avec l'émergence des grands royaumes du sud-est asiatique que sont Pagan et Angkor au Cambodge, puisque c'est à partir de, avant même l'émergence de ces royaumes, c'est à partir du 6e, 7e siècle que se sont engagés des flux migratoires partant du sud de la Chine vers l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Et donc la Birmanie est une des régions au monde les plus compliquées, les plus complexes d'un point de vvue linguistique, avec 5 grandes familles linguistiques et un nombre incalculable de dialectes et de langues, de populations proches les unes des autres.
Donc les facteurs religieux se mêlent aux données ethniques, historiques, et parfois les compliquent. Je nous arrête un moment néanmoins pour vous dire que, en lisant un livre d'entretien de Aung San Suu Kyi, qui s'appelait « Ma Birmanie », qui remonte déjà quelques années, je suis tombé en arrêt devant un passage qui m'a un peu inquiété, qui m'a presque fait renoncer à notre émission, puisqu'elle dit que le Bouddha insistait sur le fait qu'il ne fallait pas chercher un commencement à la souffrance et qu'il encourageait ses disciples à ne chercher la libération que dans le présent, à renoncer, à fouiller le passé. Avec cette anecdote propre à éclairer ce propos, un homme qui gît à terre, blessé et mourant, et tandis que le Bouddha tente de lui sauver la vie en arrachant la flèche, l'homme l'arrête et lui dit « Avant que tu ne retires la flèche, je veux savoir qui m'a tiré dessus, pourquoi il m'a tiré dessus et de quel arbre venait la hampe de la flèche. » Les questions se succèdent et finalement, l'homme meurt. J'espère que notre émission ne mourra pas avant de commencer. Nous allons contre l'idée de Bouddha en allant chercher les racines des choses.
Ce n'est pas exactement la même dimension ni la même approche, c'est-à-dire que pour le bouddhisme, bien sûr, il y a la possibilité pour chacun d'atteindre une région supérieure et de sortir du cycle des réincarnations. Et donc c'est vraiment les actes méritoires qui portent vers une vie future. Nous, on a une approche plus sociologique et historique, et donc pour comprendre le drame humanitaire qui se produit à la frontière du Bangladesh et de la Birmanie, il faut bien sûr remonter assez loin dans le temps et aux origines des royaumes birmans.
Donc vous me rassurez, Bouddha nous l'autorise.
Il nous l'autorise.
Le cas des Rohingyas, donc ce n'est qu'un cas parmi d'autres, la diversité de ces origines ethniques. Les Birmans ne sont qu'à peine plus des 2/3, les Birmans au sens propre.
C'est ça, linguistiquement, et la population birmane, qui est la majorité politiquement, est en fait numériquement à peu près égale aux populations dites non birmanes. Mais ça renvoie à un problème tout à fait de fond, qui est qu'est-ce qu'on entend par birman ou non birman? Est-ce que birman, c'est une langue, une religion, ou alors est-ce que c'est une idée plus globale d'un État-nation qui est intégrateur?
D'ailleurs, le pays s'appelle maintenant Myanmar, c'est ça? Depuis combien de temps?
Le pays s'appelle Myanmar, en fait, c'est un vieux mot, tout comme birman, mais la difficulté de Myanmar, c'est qu'il a été imposé du temps de la dictature, de la junte militaire, il y a quelques années.
Pour renoncer au mot de Birmanie ?
Pour renoncer au mot de Birmanie, qui est, dans l'esprit de la junte, directement connecté au pouvoir colonial.
Alors revenons, François Robin, aux origines. L'avènement de ce royaume de Pagan, qui reste dans la mémoire collective essentielle et qui contribue à façonner les esprits, ceux en tout cas qui défendent l'idée de la domination birmane, de l'unité du pays.
Oui, le grand royaume de Pagan, à l'instar du royaume d'Angkor au Cambodge, le grand royaume de Pagan est apparu vers le 10e, 11e siècle. Et c'était l'émergence d'un état, d'un royaume bouddhique. Les populations qui venaient du sud étaient des populations animistes ou en tous les cas sans religion fédératrice.
Soit des montagnards, soit des gens qui cultivaient les rizières aquatiques.
C'est ça, c'était des populations originaires du sud de la Chine qui sont devenues des populations rizicoles, qui ont introduit le bouddhisme qui lui-même vient du Sri Lanka, mais le bouddhisme était déjà existant dans cette région du monde, un peu plus au sud, chez les Mônes. Et donc, pour introduire le bouddhisme, les grands rois de Pagan...
Ça date du
11e, 13e siècle. Et donc, la construction du royaume de Pagan et de la Birmanie s'est faite en intégrant cette grande religion qu'est le bouddhisme. Et pour intégrer cette grande religion qu'est le bouddhisme, il y a eu des conquêtes militaires contre d'autres royaumes, les Mônes en particulier, à partir desquels les rois birmans ont emmené dans leur sillage non seulement des religieux, des bonzes, mais également des architectes, des linguistes, etc. Et donc c'est à partir de cette relation à d'autres royaumes bouddhiques que s'est construit lui-même et qu'a été de façon tout à fait originale le royaume de Pagan. Le site archéologique de Pagan a des influences indiennes, mais chacun reconnaît que cette architecture, cette archéologie est typiquement birmane, est devenue quelque chose propre à la Birmanie. Et donc, réellement, c'est là l'origine de la Birmanie moderne.
Avec déjà un effet de domination des Birmans au sens étroit du terme sur les autres populations, les Mônes ou les Karen.
C'est ça. Sauf qu'à l'époque, c'est ce qui différencie le problème à époque contemporaine du problème à époque ancienne, c'est la relation aux autres. La relation aux autres à l'époque du royaume de Pagan et des royautés birmanes jusqu'au 19e siècle était une relation territoriale d'influence, c'est-à-dire qu'on n'allait pas combattre des Mônes ou d'autres populations, on allait combattre un royaume influent. Et donc on était dans une approche territoriale et non pas ethnicisante ou entre guillemets raciale.
Ou religieuse. Quand sont arrivés les premiers musulmans, les Rohingyas justement ?
Le terme Rohingya justement pose problème. Ce terme est postérieur à l'arrivée des Birmans au royaume de Pagan. Je crois que pour la première fois, on le trouve au XVIIe siècle dans quelques sources écrites. Mais en tous les cas, c'est un terme relativement récent dans sa dimension politique, puisque c'est à partir de la transition démocratique qu'il apparaît réellement et qu'il est mobilisé comme un vecteur de nationaliste tout à fait important opposant les musulmans aux bouddhistes, ce qui n'était pas le cas auparavant.
En tout cas, les efforts de birmanisation de l'autre ne datent pas de la période récente, puisque vous avez mis dans un de vos écrits en lumière le cas du prince indien Pedikeya qui est arrivé d'Inde à Pagan, capacité d'intégration, d'acculturation qui est remarquable. Je rappelle que celui-ci était devenu un habile commerçant et tomba amoureux de la princesse Shwe Insi, je ne sais pas si je prononce bien, qui était la fille du grand roi birman Kyantzita, qui a régné au début du XIIe siècle. Le roi ne voulait rien entendre de leur amour, et c'est pourquoi il maria sa fille à son neveu, le prince So-Yun. Mais pendant la cérémonie du mariage, des offrandes de nourriture furent présentées aux bonzes, et lorsque ces derniers eurent fini leur repas, ils s'en retournèrent par la voie désert. Nous allons parler de la voie désert dans un moment. Pedikeya rencontra ces bonzes dans le ciel, et il leur demanda d'où ils venaient. Ils répondirent qu'ils revenaient de la cérémonie du mariage. Pedikeya ne voulut pas les croire, car la princesse était l'élue de son cœur. il fut pris d'un fou rire mortel. Et dans ce rire mortel, il expulse de sa bouche une boule de mercure qui tombe et féconde la princesse. C'est assez rare que les femmes soient fécondées par du mercure, non ?
Et c'est assez rare. L'important, c'est que cette fécondation donnera naissance au futur roi Lang Situ, qui est vraiment le roi, un grand personnage dans l'histoire ancienne de la Birmanie. Vous avez raison de la rappeler, cette histoire est tout à fait symbolique d'une approche du rapport à l'autre qui était tout à fait différent à l'époque ancienne. C'est-à-dire que là, on voit bien que c'est un processus d'intégration d'un étranger, et pas n'importe quel étranger, c'est-à-dire là d'un indien, d'un commerçant indien. On ne sait pas s'il est musulman ou pas. En tous les cas, il est indien. Et donc, indien est dénommé Kela. Et Kela est devenu un terme excessivement péjoratif à l'époque moderne, qu'on retrouve dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, c'est presque une injure de désigner quelqu'un comme Kela. Et là, dans cette légende, on voit une appropriation ou une intégration symbolique d'un étranger indien, qui plus est deviendra l'un des plus grands royaumes de la Birmanie, à Lang Situ.
Donc c'est l'occasion de le rappeler lorsqu'on veut être un peu moins pessimiste sur l'avenir des Rohingyas.
Voilà, et donc il y a d'autres processus que justement la confrontation militaire et raciale. Et je voulais parler aussi de ce système d'intégration qui renvoie à l'époque ancienne, et vous l'avez souligné tout à l'heure, dans le culte des esprits si important, les Na.
Ça s'écrit Nats, mais ça se prononce Na.
Ça se prononce Na. Et donc... Effectivement, c'était aussi une manière à époque ancienne des royautés birmanes d'associer, c'était la rencontre du bouddhisme avec le culte des esprits, mais une rencontre naturelle puisque le bouddhisme n'est pas un monothéisme. Le bouddhisme à lui seul est une forme de paganisme. Et donc, lorsque les rois birmans qui ont imposé le bouddhisme comme religion d'État ou quasi-religion d'État, les rois birmans n'ont pas combattu une forme animiste de la religion, des religions locales, mais ils ont intégré ces religions locales. Et donc, ces religions locales étaient, dans l'exemple du seigneur de la Grande Montagne, qui est très connu, qui fait toujours l'objet de rituels de nos jours et d'offrandes, ce seigneur de la Grande Montagne, Ming Mahagiri, était un opposant, en tous les cas quelqu'un d'influent, potentiellement concurrent à la royauté, au pouvoir central de l'époque pagane et même plus anciennement. Et donc, ils ont réintégré un ennemi potentiel, un concurrent potentiel, ils l'ont élevé au rang d'esprit supérieur, et cet esprit supérieur est devenu propitié, c'est-à-dire qu'on lui fait des offrandes aujourd'hui encore, c'est-à-dire que encore une fois, du temps des royautés birmanes, il y avait plus une politique ou une dynamique d'intégration de l'étranger ou de l'ennemi.
Une capacité de syncrétisme qui était beaucoup moins belligène que la situation actuelle. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec la Rome antique et sa capacité, la mythologie romaine et grecque, d'accueillir des divinités étrangères ?
Sans doute au sens de réappropriation et d'appropriation justement, et de réinventer, une aptitude à réinventer et à intégrer, et donc à inclure des dimensions mythiques ou poétiques ou autres, et d'en faire quelque chose de propre à la nouvelle civilisation émergente.
Et bien sur ce bouddhisme birman, je vais vous faire entendre un propos de la linguiste Denise Bernot. Cela remonte à 1995 dans l'émission d'Olivier Germain-Thomas qui s'appelait « La matinée des autres » sur France Culture. Je crois que Denise Bernot a été à l'origine de votre vocation.
Oui, tout à fait, avec son mari Lucien Bernot qui était professeur aux langues orientales.
Le bouddhisme birman est extrêmement vivant. Il imprègne la vie de tous les jours. Alors il y a l'autel du Bouddha dans toutes les maisons bouddhistes avec ses fleurs. Bien visible, il ne faut jamais tourner ses pieds quand on s'assied dans sa direction parce que c'est très impoli, c'est une offense. Et puis, il y a très souvent la noix de coco voilée de rouge qui est Ming Mahagiri, le roi de la montagne, le forgeron, celui qui a été brûlé vif. Mais on a besoin d'avoir ce protecteur dans la maison. C'est tout à fait une autre sorte de rapport entre les gens de la maison et lui qu'entre les gens de la maison et leurs convictions, leur morale bouddhiste, leur respect pour le Bouddha et leur aspiration à devenir, au bout de je ne sais pas combien de renaissances, eux-mêmes, à se fondre dans le grand être.
Vous retrouvez, François Robin, un enseignement que vous avez suivi ?
Oui, bien sûr. C'est très intéressant, justement, cette alliance, et ça nous renvoie quelque part au problème qui se pose à la frontière du Bangladesh, cette alliance, cette rencontre de deux sphères bouddhiques et animistes, qui auraient pu être contradictoires, mais en fait qui ne le sont pas du tout, et le bouddhisme est lui-même quelque chose, une sphère tout à fait intégratrice. Et donc là, on n'oppose pas le culte des esprits si important en Birmanie, dans la vie quotidienne, et le bouddhisme également si important en Birmanie, dans la vie quotidienne. Les deux sont étroitement imbriqués les uns les autres, même si il y a deux catégories, des esprits de l'intérieur, intérieur au cycle des réincarnations, et de l'extérieur, extérieur au cycle des réincarnations. Mais les deux systèmes fonctionnent ensemble. Et donc, encore une fois, de ce point de vue, le bouddhisme est intégrateur.
C'est l'époque de l'émergence du panthéon des 37 seigneurs ?
Des 37 seigneurs, alors ce chiffre de 37, encore une fois, l'histoire le fait remonter au premier roi de Pagan, et le chiffre, c'était souvent des opposants qui étaient tués ou qui étaient mis à mort, donc des personnes issues de la Malmort et qui ont été à qui un culte a par la suite été rendu. Le chiffre de 37 a été variable, l'identité des esprits inclus dans le chiffre des 37 était également variable, mais c'est un culte tout à fait important et qui a fait l'objet de nombreuses transformations, un culte étudié en particulier par Bénédicte Braque de la Perrière.
À qui il faut rendre hommage sur toutes ces questions ?
À qui il faut rendre hommage sur toutes ces questions, tout à fait essentielles. Ces questions sur le culte des esprits qu'elle analyse d'un point de vue non figé, mais justement en l'associant au changement social et politique du pays.
Il faut peut-être à ce point rappeler que le bouddhisme se divise en plusieurs familles et que c'est un bouddhisme spécifique qu'il y a en Birmanie, le Theravada.
Ce bouddhisme Theravada ou Hinayana, du petit véhicule, est commun à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Il vient du Sri Lanka, et si on va au Sri Lanka, on retrouve les mêmes repères et les mêmes symboles. Et il permet, pour se différencier par rapport au bouddhisme du grand véhicule, Mahayana. Mahayana est plutôt le bouddhisme tibétain, qui c'est chinois, qu'on retrouve bouddhisme zen au Japon, etc. Et l'une des différences importantes mises en avant, mais qui tend tout de même à être un peu atténuée, c'est pour le Mahayana, c'est la présence de bodhisattvas, c'est-à-dire de saints, qui ont renoncé à être Bouddha pour enseigner au commun des mortels la voie du bouddhisme. Et donc, au contraire du bouddhisme Theravadin, mais il y a aussi des bodhisattvas. Alors, le bouddhisme Theravada donne l'opportunité, la possibilité à chacun de sortir du cycle des réincarnations et potentiellement de devenir Bouddha.
Mais alors ça conduit à la réflexion que j'appelais en commençant, c'est-à-dire la question des relations entre bouddhisme et violence. Vous évoquez le Sri Lanka, on sait l'extraordinaire brutalité de la guerre contre les Tamouls au nord de ce qu'on appelait autrefois Ceylan, au nord de Sri Lanka, bouddhisme et violence. Est-ce que ce bouddhisme-là pouvait, à un moment donné de l'histoire, donner le sentiment qu'il était assez syncrétique pour n'être pas violent ?
Effectivement, c'est comme dans toute religion qui prêche la bonne parole, les idées de compassion, de paix, d'amour du prochain, etc. Je crois que c'est des notions tout à fait universelles, quelles que soient les religions, et d'un point de vue théologique, effectivement, le bouddhisme développe ces idées de compassion, de souffrance, etc. Maintenant, il faut avoir une dimension plus sociologique et le resituer, ce bouddhisme, dans son rapport aux pouvoirs centraux et aux populations. Et donc, le bouddhisme est vraiment dans une relation de don contre don, c'est-à-dire des bons dans une relation avec le commun des mortels, où on est chacun dans une relation de don contre don. Le peuple fait des offrandes aux bons, qui lui-même lui retourne des prières ou des bonnes paroles.
Prégnance des bons considérable, puisqu'il y en a 600 000 en Birmanie.
C'est
dans
ça, tout à fait considérable. Et donc chaque enfant, a priori, dans un milieu bouddhique, mais la Birmanie n'est pas simplement bouddhiste, dans un milieu bouddhique, chaque enfant, il y a un rituel d'initiation qui est la prise de robe. Et donc à partir de 4, 5, 6, 7 ans, Il y a un rituel où le jeune garçon, pendant une semaine ou plus ou moins, doit rester au monastère. Donc c'est tout à fait prégnant dans la vie quotidienne.
Vous nous dites que comme les grandes religions monothéistes en Occident, il y a toujours eu une tentation éventuellement marginale, en dépit de l'enseignement pacifique, de la bonté et de la compassion, une tentation de violence.
C'est un peu différent. Il faut vraiment distinguer le bouddhisme des religions monothéistes.
Y compris du point de vue de la violence ?
Y compris du... Je ne veux pas faire de comparaison avec le christianisme et l'islam et le bouddhisme. Ce qui est sûr, c'est que dans le contexte bouddhique de la Birmanie, il y a une relation donc indestructible entre la communauté bouddhique, la hiérarchie bouddhique et le peuple, don contre don. Et donc, lorsque le peuple agit, d'une manière ou d'une autre, de façon souvent du temps de la dictature, agit contre la dictature, il y a un moment ou un autre où il est plus possible d'intervenir contre une junte si puissante et si crainte, hein, à juste titre. Et donc, il y a un moment où la communauté bouddhique dit... Arrêtez, on reprend le... C'est nous les responsables du mouvement, on est votre porte-parole. Et donc, à ce moment-là, les bonzes représentent quelque part le peuple et sont les interlocuteurs privilégiés à l'égard des pouvoirs centraux, quels qu'ils soient, que ce soit une dictature ou un pouvoir civil.
C'est peut-être l'ambivalence que l'on constate encore aujourd'hui entre ceux qui défendent l'idée de la non-violence et ceux qui pensent que la violence est inévitable. On trouve cette ambivalence d'ailleurs dans les propos de Aung San Suu Kyi. Mandela ou Gandhi ?
Il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut resituer dans un contexte historique. C'est-à-dire que le bouddhisme est issu de l'hindouisme, c'est un schisme quelque part de l'hindouisme. Et donc on est dans les mêmes valeurs. Le Mahatma Gandhi, en obtenant... dans la façon dont on sait l'indépendance de l'Inde à l'égard des Britanniques, par la non-violence. Mais cette non-violence s'est concrétisée de quelle manière ? Par des millions de morts, par un exil des musulmans au Pakistan occidental et oriental à l'époque, le Pakistan oriental devenant l'actuel Bangladesh. Et donc, on retrouve ça en Birmanie bouddhique, quelque part, au sens où les bonzes, devenant porte-parole de la population civile, les bons se sont affirmés et sont devenus les principaux opposants au pouvoir colonial.
Alors nous y voilà, c'est évidemment un moment essentiel dans notre réflexion de ce matin sur les racines d'une violence. La Birmanie, c'est le temps de la colonisation. Il y a eu plusieurs étapes dans la conquête de la Birmanie par les Anglais, 1824-26, 1852, 1885, et puis... un temps assimilation de la Birmanie à l'Inde jusqu'à ce que, avant la Seconde Guerre mondiale, il y ait séparation en 1937.
Il y a eu l'indépendance en 1948.
Quelles sont les étapes de cette conquête par la Grande-Bretagne et quelle influence a-t-elle pu avoir sur notre problématique de ce matin, c'est-à-dire les racines de la violence à l'égard des minorités ?
Les Britanniques ont donc été en Inde depuis quelque temps et la Birmanie voisine, qui était un pays riche, porteur de ressources économiques tout à fait importantes. Et à l'époque, c'était les frontières avec l'Inde britannique. Et l'Inde britannique, c'était l'Assam. Et l'Assam, c'est là où, on le sait tous, il y avait des possibilités de plantation de thé, etc. La Birmanie, c'est aussi le rubis. La Birmanie est un pays riche, extrêmement riche. Les gens sont pauvres. Mais le pays est riche. Et donc, les Britanniques ont été attirés à la fois par les ressources économiques potentielles de la Birmanie et en même temps gênés par la situation qui prévalait dans les hautes terres avec les systèmes, les minorités non bouddhiques, les systèmes de chefferies tout à fait intéressantes et donc des chefferies claniques, dont l'un des systèmes d'organisation sociale est... le principe d'ultimogéniture ou de primogéniture, c'est-à-dire c'est un principe segmentaire, donc de séparation, de division d'un même groupe pour créer de nouveaux clans, où c'est le plus jeune, un des fils cadets, ou selon les sociétés, le fils aîné qui doit partir à la recherche de nouveaux territoires.
Vous voulez dire que les ethnies sont elles-mêmes subdivisées ?
Les ethnies sont elles-mêmes subdivisées dans une organisation qui génèrent justement des situations conflictuelles qui sont, qui à l'époque étaient plus ou moins périodiques avant les, après les récoltes, etc. Et donc il y avait des situations de guérilla et de razzia contre des villages, etc., que ne supportait pas et dont ne voulait plus le pouvoir tout-puissant britannique. Et donc il y a eu des, entre guillemets, la pacification de la Birmanie. Et donc cette pacification de la Birmanie, qui est, je reprends le titre d'un ouvrage d'un des administrateurs britanniques, cette pacification a été extrêmement violente. C'est-à-dire que c'était des régiments entiers qui partaient dans les montagnes pour pacifier. Et donc il y a eu des conflits tout à fait importants, dramatiques, opposant ces minorités au pouvoir britannique.
Dans le même temps, le colonisateur divise pour régner, suivant une vieille tradition. C'est-à-dire, il a tendu à renforcer la diversité du pays en s'appuyant sur cette variété ethnique, non ?
C'est ça. Et donc, cette variété ethnique qui, encore une fois, autant de n'était pas essentielle, n'était pas même posait problème, n'était pas prégnante à l'époque de la royauté, puisque on était, au temps des royautés birmanes, dans une approche territoriale. Là, les minorités ethniques étaient dans des régions compliquées d'accès, sans pouvoir sans trop fort, donc dans des systèmes claniques segmentés, différenciés. Les Britanniques ont voulu savoir identifier les personnes qu'ils voulaient pacifier. Et donc ils ont créé, c'est à partir de ce moment-là, à la fin du 19e siècle, on peut le dater à peu près précisément, de façon plus ou moins scientifique, qu'ont été créés sur des bases linguistiques, qu'ont été créés des groupes ethniques. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, c'est très récemment, une 150 ans, que les groupes ethniques sont apparus en Birmanie et en tous les cas ont posé un problème au pouvoir central en place.
Avec traduction administrative et quasi politique de cette réalité.
Effectivement, donc les administrateurs envoyaient dans les montagnes des représentants, les chefferies étaient assujetties au pouvoir colonial et puis ils étaient mis dans des boîtes, un peu comme des insectes qu'on pique pour en faire un tableau, c'est-à-dire on a créé des cases, des catégories, et bien sûr, en créant ces catégories, on a identifié, on a créé des idées, des nations, et donc de ces nations sont nés des nationalismes, et on a créé des catégories qui, elles-mêmes, du coup, continuaient de s'opposer les unes les autres et se sont opposées au pouvoir central. Et donc, effectivement,
les forces centrifuges, avec ces 135 ethnies, ont été renforcées par le colonisateur.
Ils ont été renforcés, ils ont été créés par le colonisateur, c'est-à-dire que le premier recensement qu'il y a eu, sur lequel s'appuie toujours la loi de citoyenneté actuelle, le premier recensement ou le recensement qui fait autorité, qui fait date, est de 1932, c'est-à-dire à l'époque où les Britanniques étaient la puissance coloniale dans le pays. Et ce premier recensement, c'est à partir de là. Le responsable de recensement, ce monsieur Benningson, a créé 8 National races, c'est-à-dire 8 races nationales, pour reprendre l'expression anglaise.
Le mot de race n'était pas frappé d'indignité à l'époque.
Sous lesquelles étaient dispersés 135 groupes ethniques, ou sous-groupes. Et donc c'est réellement, on peut quasiment dater l'émergence ou l'apparition de ces groupes ethniques, de cette approche raciale, ethnicisante, catégorielle, essentialiste de la Birmanie.
De grandes conséquences évidemment aujourd'hui. Tout cela enveloppé, vu de Londres, vu de la Grande-Bretagne, dans une espèce de mythologie qui nous apparaît un peu kitsch après coup, mais à quoi il faut faire néanmoins référence. Je vais vous faire entendre, je parlais de Rudyard Kipling tout à l'heure, je vais vous faire entendre un poème fameux de lui qui s'appelle Mandalay, de 1892, qui a eu beaucoup d'influence, et il était repris jusque par Frank Sinatra dans une de ses chansons. Je vais vous faire lire un extrait de ce poème par Pierre Macorlan, avec un peu d'emphase, qui en l'occurrence ne me paraît pas tellement malvenu.
Près de la vieille pagode de Moulmen, en regardant du côté de l'Orient vers la mer, une jeune birmane est assise, et je sais qu'elle pense à moi, car le vent souffle dans les palmiers, et les clochettes du temple disent « Revenez, soldats anglais, revenez à Mandalay, revenez à Mandalay où la vieille flottille est à l'ancre. N'entendez-vous donc pas ces avirons battant l'eau depuis Rangoon jusqu'à Mandalay, sur la route de Mandalay où s'ébattent les poissons volants, où l'aurore se lève avec un bruit de tonnerre du côté de la Chine à travers la baie. » Son jupon était jaune et son petit bonnet était vert. Et elle se nommait Soupi Yaoulat, tout comme la reine de Thibao. Et lorsque je la vis pour la première fois, elle fumait une blanche cigarette et prodiguait aux pieds d'idoles païennes des baisers chrétiens, à une sacrée idole faite debout qu'on appelait le grand dieu Bouddha. Je vous prie de croire qu'elle ne s'en soucia plus guère quand je lui donnais un baiser à l'endroit où je la trouvais, sur la route de Mendaley. Mais tout ça a passé pour moi, tout ça est loin. Et depuis longtemps, il n'y a pas d'omnibus qui aille de la banque à Mendaley. Et je suis ici à Londres en train d'apprendre ce que dit le soldat qui a servi 10 ans. Si vous aviez entendu l'appel de l'Orient, vous ne penseriez plus jamais à autre chose.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Le baiser chrétien au pied d'une idole païenne. François Robin, je vous ai vu lever le sourcil.
Oui, bah c'est très intéressant, c'est presque émouvant, tellement de temps de naïveté et d'incompréhension de milieu dans lequel ce grand Kipling avait mis les pieds, mais c'est en même temps tout à fait significatif, effectivement, d'une incompréhension du pouvoir colonial qui mélange à la fois les villes de Moulmein qui sont au sud, au bord de la mer, Mandalay qui est une des anciennes capitales royales au centre du pays, et Thibaut qui est la ville d'une ancienne principauté Shan. Donc c'est tout ça, il y a beaucoup de mélanges tout à fait significatifs tout de même.
On n'est pas au bord de la mer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est au bord de ce très grand fleuve.
Oui, on est au bord à Mandalay, au bord de l'Irrawaddy, et donc on est au cœur même de la civilisation birmane, et c'est, si je peux faire une aparté, c'est la raison pour laquelle le dernier des dictateurs, Thein Sui, a changé la capitale, c'est-à-dire que la capitale qui était Rangoon, considérée par la junte comme une capitale britannique, coloniale, et donc déplacée il y a une dizaine d'années ou 15 ans, au centre du pays, à Naypyidaw, qui rejoignant ainsi l'histoire de la royauté birmane, région où se situaient toutes les capitales de la Birmanie historique.
Quand je parle de kitsch, je dois vous avouer que cette archive est extraite d'une émission qui s'appelait « Quand Panam mène à la route de Mandalay ». Une collection qui s'appelait « Sur la plus haute branche », 1954. Mais avançons. François Robin, avançons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui va également jouer un rôle important quant au sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire les racines de la violence birmane. Que se passe-t-il en 1940?
Alors bien sûr, la Birmanie est engagée dans la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était une colonisation britannique, mais aussi avec l'engagement aux côtés des forces allemandes.
Il y a le fameux pont de la rivière Kwai, qui est à la frontière. C'est le roman de Pierre Boulle, dont on a tiré un film fameux. C'était le symbole?
C'est ça, la rivière Kwai était un des symboles, justement, de la domination à l'époque japonaise, si difficile à vivre. Et le Japon, qui a occupé la Birmanie pendant 2 ou 3 ans, générant des combats tout à fait terribles. Le palais royal de Mandalay a été brûlé à cette époque-là, bombardé, je crois, par les forces britanniques, puisque c'était le quartier général des Japonais. Mais de façon plus profonde, plus intéressante, c'est l'importance de nos jours encore, peut-être, du Japon. Et l'importance du Japon pour la décolonisation du pays, puisque les 38 camarades, ils s'appelaient ainsi, sont partis au
militaires,
Japon.
Des militaires.
38 camarades qui étaient des militaires sont partis au Japon, et parmi ces 38 camarades, pour s'entraîner militairement, pour avoir une formation militaire, parmi ces 38 camarades, il y avait le général Aung San, père de Aung San Suu Kyi, qui a été assassiné en juillet 47, pour les raisons justement de ethnique et de division du pays et partition du pays.
Et d'autre part, un futur dictateur.
Et le général Ne Win, qui était le futur dictateur à l'origine du coup d'État de 1962, qui a imposé la dictature birmane jusqu'à ces dernières années.
Mais entre-temps, il y a eu la décision japonaise, un peu formelle évidemment, de donner l'indépendance à la Birmanie, qui ensuite aura des conséquences évidentes, puisque les Britanniques ne pourront pas s'y installer. Écoutez donc cette chronique militaire du 1er août 1943, tonalité d'époque, je l'emprunte aux archives de Radio Paris.
Écoutez maintenant notre chronique. Le Japon vient d'accorder aux États birmans leur indépendance. Cet acte accompli par le gouvernement de Tokyo en Birmanie est significatif de la nouvelle politique suivie par les Japonais. Il y a désormais, et on peut le dire, pour la première fois dans l'histoire du monde, un libre-échange. Les continents se soudent les uns aux autres, non par traité d'alliance basé sur la force militaire, mais par des pactes d'ordre économique qui, à la longue, donneront aux différents peuples incorporés dans le cycle des habitudes de vie telles, des réflexes si précis et mécaniques qu'il leur sera impossible d'échapper à la communauté. Cette idée-là, à vrai dire, est une idée très en faveur dans le monde extrême-oriental et en particulier au Japon, où il y a 3000 ans, le premier empereur définit la mystique et la politique de son pays. « Sous le ciel, disait-il, un même toit pour tous les hommes. » La libération des États birmans et leur incorporation dans le grand espace asiatique est la justification de cet axiome. Les Birmans ont pris une telle part dans la lutte contre les Anglais que le peuple japonais a été très rapidement conduit à reconsidérer son attitude à son égard. D'autre part, le peuple birman a été pendant longtemps, pour l'Extrême-Orient, un canal civilisateur. C'est par là que se rencontrèrent la culture hindoue et la civilisation chinoise. Enfin, la Birmanie, avec ses bonzes, apparaît comme un des foyers essentiels des religions de l'Extrême-Asie. L'indépendance accordée à la Birmanie constitue la reconnaissance officielle de ses vertus et aussi de ses droits, car les droits spirituels comptent tout autant pour l'extrême-oriental que les droits d'ordre pratique. La Birmanie est sans doute le grenier de l'Asie. Cette interdépendance du spirituel et du temporel a donc créé des liens. Le gouvernement du général Tojo a tenu à les reconnaître.
Le général Tojo qui finira pendu, comme nous savons, après la victoire des États-Unis. Dans cet extrait, il y a plutôt des clichés ou plutôt des lucidités ?
Alors, cet extrait, bien sûr, est issu d'un contexte vichyiste qu'il faut resituer dans ce contexte. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est justement l'indépendance offerte par les Japonais aux Birmans. Et donc, on comprend dans ce contexte, et c'est très clair, les raisons pour lesquelles le général Aung San, donc le père de Aung San Suu Kyi, s'est allié dans un premier temps, les 38 camarades se sont alliés dans un premier temps aux forces japonaises.
Avant de virer de bord par réalisme.
Avant de virer de bord, une fois que les Japonais ont été boutés dehors, si on peut dire, de virer de bord et de permettre, grâce à l'alliance avec les Britanniques, de conduire à l'indépendance effective de la Birmanie.
Quoi qu'il en soit, après la victoire des alliés, Aung San arrive au pouvoir brièvement, comme nous le disions, puisqu'il a été ensuite assassiné par un rival, et il réunit à Panglong, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prononcer, une conférence précisément destinée à réfléchir à l'unification nécessaire des différentes ethnies. Et il apparaît comme assez optimiste puisqu'il déclare « Le rêve d'une Birmanie unifiée et libre m'a toujours hanté. Nous qui sommes réunis ici, nous sommes engagés dans la poursuite de ce rêve. » Mais il pense qu'on va atteindre ce rêve. Il ajoutait « Qu'est-ce qu'une race après tout? Quels sont ses critères? Nous avons en Birmanie de nombreux peuples indigènes. Dans d'autres pays aussi, il y a beaucoup de peuples indigènes, beaucoup de races. La Chine, le Japon et l'Union soviétique en fournissent l'exemple. En Amérique, bien que les gens puissent parler une langue commune, ils sont issus de souches nombreuses, mais ils se sont assimilés et s'identifient eux-mêmes comme Américains.
Ce qui est intéressant dans ce passage, il faudra qu'on revienne sur cette notion de race et cette notion de peuple indigène qui conduit la transition démocratique dans l'impasse actuelle. Mais donc revenons à Panglong. Qu'est ce premier traité signé avec les autorités birmanes à Aung San, signé avec les Britanniques et signé avec plusieurs des élites issues des minorités de l'époque. Et donc ce traité de Panglong, signé en 1947, en fait, a constitué la base et même est devenu le texte constitutionnel, la première constitution de 1947, de la Birmanie indépendante en 1948.
C'est un régime pseudo-libéral, en fait, avec beaucoup de minorités oubliées.
Beaucoup de minorités oubliées. Le plus, ce n'est pas tellement le fait que les minorités étaient oubliées, c'est qu'on ait créé, on ait mis le pied dans la construction d'un État ethnique et non pas dans un État-nation. C'est-à-dire qu'on a mis au devant de la scène la multiplicité linguistique et culturelle pour en faire le fer de lance d'une Birmanie moderne.
Vous voyez là, au fond, la source de beaucoup des problèmes de centrifuge actuels.
Exactement. Pour moi, c'est tout à fait l'origine de l'impasse dans laquelle s'est engagée la Birmanie. Et c'est pas simplement une interprétation, une analyse gratuite. C'est que à la signature de ce traité de Panlong, la première constitution, il y en a eu trois autres par la suite, la première constitution a créé un État pour la première fois. Bien sûr, une reconnaissance nationale d'une Birmanie moderne, mais en créant un distinguo entre des États à dominante ethnique. Il y a eu pour la première fois un État Kachin, un État Shan, un État Kaya. Et donc, par opposition, ces États à dominante ethnique, par opposition à la Birmanie, Birmane, division administrative, etc. Et donc, pour la première fois, a donné une reconnaissance institutionnelle à des minorités ethniques, ce qui en soi ne pose pas vraiment problème. Ce qui pose problème, c'est dans la construction, le critère ethnique, racial, culturel, dans la construction d'un État-nation. Et donc, ce critère, par la suite, a été renforcé avec la deuxième constitution en 1974, au temps de la dictature, en intensifiant justement ce découpage ethnique du pays, jusqu'à obtenir sept États ethniques, dont l'Arakan, là où se trouve les Rohingyas, les Mônes, un État Karen également, etc. Et donc, en 1947, première constitution à dominante ethnique a été le lancement de 50 ou 60 ans de guerre civile en Birmanie, opposant les minorités ethniques aux pouvoirs centraux, ce qui n'existait pas auparavant. Et donc, réellement, 1947, Panlong est à l'origine de plusieurs décennies de guerre civile qui frappe encore le pays de nos jours.
D'ailleurs, très vite, significativement, la rébellion Karen, par exemple, et le soulèvement de l'Arakan, qu'est-ce qui s'est passé?
Bien sûr, la rébellion Karen, puisque les Karen, divisés pour régner, vous disiez tout à l'heure de façon tout à fait juste, les Britanniques n'ont pas voulu reconnaître les Karen dans la première constitution, puisque c'était un État Kaya. Or, les Kaya sont des groupes parlant le Karen, et la majorité des Karen n'ont pas été reconnus comme Karen, si vous voulez. Et donc, on retrouve les Karen à la frontière de la Thaïlande, on retrouve des Karen dans le delta de l'Irrawaddy, puisque toutes les minorités ne sont pas des minorités montagnardes. Et donc, le mouvement de rébellion en Birmanie, ça s'inscrit dans la continuité de la première constitution dominante ethnique. Les Karen n'avaient pas une reconnaissance, ça a fait des mécontents, et donc, naissance... C'est l'origine du premier conflit de rébellion opposant les minorités au pouvoir central, un des conflits les plus anciens au monde, je crois.
C'est d'ailleurs probablement un des motifs de la pérennité de la dictature militaire qui dure plus longtemps qu'en Grèce, qu'en Espagne ou qu'en Amérique latine.
C'est ça.
Et qui peut se fonder précisément sur la détermination de ne pas laisser ces forces centrifuges l'emporter.
Exactement, c'est-à-dire que toute dictature, par définition, est garant ou se définit comme le garant de l'unité nationale. Et donc, avec le lancement, si je peux dire, de la situation de guerre civile, la dictature, la junte, s'est trouvée une légitimité tout à fait importante en disant « si on n'est pas là, la Birmanie va éclater ». Effectivement, elle a été à plusieurs reprises proche de l'éclatement et les minorités armées étaient aux portes de Rangoon dans les années 70.
C'est, quoi qu'il en soit, contre la dictature qu'on voit surgir la très belle figure, si longtemps respectée, de la fille du général Aung San, c'est-à-dire Aung San Suu Kyi, qui va pour longtemps incarner la défense, nous le disions, et l'illustration de l'aspiration à la liberté, à la défense des droits de l'homme, et qui obtient de façon éclatante d'abord le prix Sakharov et ensuite le prix Nobel de la paix, et qui dès lors devient une sorte d'icône dont l'influence ressurgit chaque fois qu'il y a une espérance d'allègement de la dictature. Écoutez donc cette interview de Jane Birkin sur Aung San Suu Kyi le 25 septembre 2007. Et puis ensuite, elle chante.
Quand vous rencontrez quelqu'un de bouddhiste qui est aussi lumineuse sur les questions de ne plus avoir peur, de dépasser la peur, et qui est tout à fait pacifiste. Quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, ça vous change votre vie quelque part. C'est peut-être aussi cette chance de l'avoir côtoyé ne serait-ce qu'une heure et demie dans un monsoon à Rangoon, que peut-être sa personne est particulièrement chère. Mais bon, ça c'était plutôt ma chance et je n'ai pas le droit de laisser tomber sa cause. Pour moi, elle a représenté jusque-là une mythologie d'une personne qui symbolisait Gandhi. Donc de voir ça en forme humaine et féminine devant moi, était absolument magnifique.
Aung San Suu Kyi will be gone, and she'll be on a t-shirt, the marketing's good. Monks are dying, soldier children crying, we're playing bubbles with four-year-old girls. But tomorrow, Christine and me feel just the same, maybe shed a tear in our China tea. But tomorrow, the world will see we did nothing for Aung San Suu Kyi.
2008, Amnesty report, Burma. Burma is one of the poorest countries in the world, but one of the richest in jewels, drugs, tech, petrol, natural gas. Total's pipeline gives the military junta more than $1 million a day. Burma has one of the worst records for child mortality and AIDS. The International Committee of the Red Cross withdrew from Burma because it could not fulfill its mission. No one knows the numbers of the tortured to the numbers of the dead. This song is dedicated to Aung San Suu Kyi, her Democratic Party, the monks, the students, the people of Burma, the children. This is a plea for Aung San Suu Kyi.
On aura compris peut-être, François Robin, que Jane Birkin, dans cette chanson de 2007, ironise sur la manière dont des événements dramatiques finissent par du marketing. T-shirt, on doit penser aussi à Che Guevara. Et pendant que les moines meurent et que les enfants soldats pleurent, la conversation agréable de café continue à se développer. Cette ironie est assez ravageuse. Et puis, il y a ensuite un texte qui évoque le rapport de l'Amnesty sur la Birmanie et en particulier les événements du 8-8-8-8. Il faut que vous nous expliquiez ça.
Donc, les événements du 8-8-8-8, c'est effectivement lorsqu'il y a eu un premier mouvement populaire des étudiants et du peuple birman contre la dictature birmane.
Étudiants et moines se retrouvant ?
Étudiants et moines, bien sûr, se retrouvant. Une fois de plus, les moines se donnant, étant le fer de lance de la rébellion contre la junte, étant une fois de plus le porte-parole de la population civile. Et donc, ce qui était très intéressant dans ce mouvement, qui s'est fini dramatiquement, c'est que la hiérarchie bouddhique, on pensait jusqu'alors qu'elle donnait une légitimité quelque part à un pouvoir central fort. Et on s'est rendu compte qu'une dictature, finalement, n'a pas besoin de légitimité, puisque une dictature, par coup d'État, n'a pas de légitimité.
En dépit de l'hostilité éventuelle du bouddhisme en direction des autres religions, et en particulier des musulmans ?
À l'époque, il n'était pas encore question, la question musulmane ne posait pas tant de problèmes, c'était plus ou moins épisodique, ça arrive de temps en temps, il y avait des mouvements contre les musulmans, mais c'est pas à l'époque du tout, c'était vraiment l'ensemble du peuple birman, et là, je crois, minorité, musulmans, bouddhistes, chrétiens inclus, sans distinction.
800 000 chrétiens, tout de même, que le pape est venu saluer tout récemment, le pape François, dans une visite officielle, sans d'ailleurs prononcer le nom des Rohingyas.
C'est ça, et en fait, il doit être très content d'être parti sans avoir provoqué de mouvement, de rébellion ou de foule. Mais en tous les cas, la question se pose. Et la question, avec tout le respect, Jane Birkin l'a montré dans sa chanson et dans ses propos, le respect qu'il faut avoir pour Aung San Suu Kyi. Absolument.
Puisque... Vous la défendez alors que son image a terriblement pâli depuis que une apparence de démocratie est intervenue, même si les militaires ont gardé beaucoup de pouvoir, le ministère de la Défense, un bon nombre de députés.
Il faut voir le risque représenté, il faut se resituer dans le contexte d'une dictature terrible, et donc le risque représenté tout mouvement d'opposition, que ce soit de la part des bons, des étudiants, ou d'Aung San Suu Kyi, qui a été en résidence surveillée pendant très longtemps.
Rappelez-nous les derniers épisodes.
Aung San Suu Kyi a été, de façon un peu étonnante, libérée par la dictature qui a organisé en 2012 des élections, conduisant justement à l'émergence d'un gouvernement civil et démocratique, mais avec toute la complexité. Et donc c'est là, effectivement, avec tout le respect qu'on doit à Aung San Suu Kyi, il y a aussi, il faut resituer dans le contexte général issu de la signature de Panlong par son père en 1947, ce traité de Panlong. Aung San Suu Kyi, qui est la fille de son père, veut un deuxième et un troisième Panlong, c'est-à-dire qu'elle reste exactement dans la même logique en 1947.
C'est-à-dire ne pas attribuer trop d'importance à ces forces centrifuges.
Exactement, c'est-à-dire qu'elle, elle qui a écrit ce livre, « Se libérer de la peur », tout à fait important. Elle a montré qu'elle savait se libérer de la peur. Se libérer de la peur, actuellement, c'est plus réellement tourner contre la junte, quoique les militaires sont toujours, occupent une place toujours très influente. Se libérer de la peur, c'est pour sortir la Birmanie de son impasse essentialiste, ethnicisante, raciale. C'est justement mettre tout le monde autour de la table et dire, reconnaître un État-nation et non plus un État ethnique, un État-nation qui est intégrateur.
On est frappé, François Robin, par l'existence d'un vrai nationalisme bouddhiste très, très violent. Je pense à ce personnage, le moine Viratu, que Barbette Schroeder, dans un film qui s'appelle « Le Vénérable W », avait peint, qui dirige le Mabata, qui paraît un mouvement très très préoccupant, violent en vérité.
Oui, c'est un mouvement, pour le coup, tout à fait nouveau, un mouvement de nationalisme bouddhique anti-musulman, qui est de façon tout à fait significative, issu ou s'est développé après les élections ayant donné le pouvoir à Aung San Suu Kyi et à son gouvernement civil.
Je pensais, en considérant ce déclin peut-être injuste compte tenu de sa liberté d'action, déclin de son image. Je pensais à ce propos qu'elle avait tenu dans cette conversation avec Alan Clements qu'elle avait eu il y a déjà pas mal d'années. Elle disait « Avez-vous entendu parler de Upo Sine ? C'était un danseur très célèbre d'une troupe de théâtre birmane. Un comédien disait avant le commencement du spectacle « Upo Sine, personne dans l'assistance ne sait danser aussi bien que toi. Mais personne dans l'assistance n'ignorera le moindre faux mouvement. » Et elle concluait, c'est pareil en politique. Ça peut presque être une conclusion, non?
Oui, ça peut être tout à fait une conclusion. Et on espère tous que le drame humanitaire frappant les musulmans d'Arakan se terminera. Il se terminera sans doute en suivant les conseils du rapport de Kofi Annan. Mais lorsqu'il sera terminé, espérons-le le plus tôt possible, tout porte à croire qu'il y aura d'autres mouvements de la même nature. Ce ne seront plus des musulmans, mais ce seront des Kachin, des Shan, des Wa, des Pelahang, etc. Puisqu'on est toujours dans cette même logique de minorité par rapport à un pouvoir central birman bouddhiste.
Merci beaucoup. Nous terminons donc sur une conclusion chagrine. Espérons qu'elle sera démentie par la suite. Vous avez évoqué le livre qui s'appelait « Se libérer de la peur », qui était publié par les éditions des Femmes, Antoinette Fouque. En 1991, avec des préfaces, excusez du peu, de François Mitterrand et de Vaclav Havel. Vos propres ouvrages, j'en cite deux, on en trouvera d'autres sur notre site, « Prêtres et chamans, métamorphose des Kachin de Birmanie », paru chez L'Harmattan en 2007, et puis « Fils et maître du lac, relations interethniques dans l'état Shan de Birmanie », publié par les excellentes CNRS éditions en complicité avec les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme en 2000. Je vous rappelle que vous pourrez trouver d'autres ouvrages naturellement sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous nous rapprocherons de Noël et nous aurons une émission qui vous paraîtra peut-être un peu plus futile. Elle ne l'est pas vraiment. Il s'agit des fourberies de renards. Est-ce un malentendu? J'inviterai Michel Pastoureau. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, réalisée par Anne Kobilac. Aujourd'hui, nous ne parlons pas, en dépit de ses origines, de la Tchécoslovaquie, avec à la prise de son U2 Diego Aclopes, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et Annie Lozana pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.